le magazine des Nations Unies.
Au sommaire de ce magazine, la stabilité et la sécurité ne sont pas menacées à Goma et la ville garde son calme après l'attaque de l'aéroport par des hommes armés. Assurance du général Carlos Santos de Cruz, commandant de force de la MONUSCO, à la conférence des Nations Unies du mercredi dernier. La garde républicaine et la police nationale ont réagi rapidement à cette attaque de bandits, a-t-il affirmé. Nous écouterons le propos du général Carlos dans cette édition. La mortalité des enfants de moins de 5 ans, toujours une préoccupation en RDC. L'UNICEF et le gouvernement étendent le programme de lutte contre la mortalité infantile. Objectif, réduire celle-ci à 54 décès pour 1000 naissances d'ici 2017. Le représentant de l'UNICEF en RDC est l'invité du magazine des Nations Unies. Enfin, sur le plan humanitaire, transfert des réfugiés burundais d'Uvira vers les camps de Luanda dans la plaine de la Ruzizi. Opération signée au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR après une réunion de coordination interagence tenue à Bukavu. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous ce dimanche. Ce magazine part du Nord Kivu, attaque de l'aéroport de Goma par des hommes armés. Le sujet est revenu au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies du mercredi dernier. Selon le général Carlos de Cruz, commandant de force de la MONUSCO, cette attaque œuvre de bandits n'a pas affecté la sécurité et la stabilité à Goma. Selon lui, les éléments de la garde républicaine et de la police nationale ont réagi à cette tentative d'attaque. Pour rappel, mardi dernier, des hommes armés non autrement identifiés ont tenté d'attaquer l'aéroport de Goma. Bilan, selon le gouverneur de province, un assaillant tué, 3 autres blessés et un mort du côté des FRDC. Pourquoi cette attaque a-t-elle eu lieu alors que les éléments de la MONUSCO et les FRDC sont postés à l'aéroport? Écoutez à ce sujet la réponse du général Carlos de Cruz, dont le propos ont été recueillis par Jean-Pierre Elali Ikoko.
J'étais à Goma dans le moment que les bandits, un petit groupe, a attaqué l'aéroport. Il y avait la réaction de la garde républicaine, de la FRDC et de la police nationale. Parce que ce n'est pas possible que ces bandits vont créer une situation d'instabilité à Goma. Goma, c'est parfaitement stable. C'est une ville que, ce moment, il y a beaucoup de développement. Il n'y a pas d'espace pour ce type de bandits. Et la réaction du gouvernement, du gouverneur de la province, de les autorités et de la FRDC, de la garde républicaine, est appropriée. Il n'y a pas de problème à Goma en ce moment.
Une autre actualité partira de Mbandaka en Équateur avec la publication mercredi dernier des résultats de la deuxième enquête démographique et de la santé après celle de 2007. Plusieurs cadres provinciaux ont pris part à la cérémonie des restitutions organisée sous les patronages du gouverneur de province intérimaire avec l'appui de l'UNICEF Équateur. Éclairage avec Paul Richard Malengela.
D'après le directeur provincial de l'Institut national de la statistique qui a présenté les résultats, cette deuxième enquête portait sur 8 principaux indicateurs. La fécondité, la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, la nutrition, le paludisme, le VIH-Sida et la mortalité des enfants. Et en général, a-t-il indiqué, le Grand Équateur a connu une amélioration de ces indicateurs relatifs aux OMD, objectifs du millénaire pour le développement, par rapport à la première enquête de 2007. Cependant, a-t-il ajouté, les cibles sont loin d'être atteintes. En cause, l'ignorance des OMD faute de vulgarisation, le manque ou l'insuffisance des mesures rigoureuses d'accompagnement. C'est pourquoi les participants ont plaidé pour l'implication plus concrète de l'autorité par un budget conséquent pouvant aider à relever ces défis et favoriser l'accès de tous aux services sociaux de base, y compris la sensibilisation permanente de la population. En prévision du découpage territorial, il a été demandé de mettre plus d'efforts au niveau des 5 nouvelles provinces pour qu'elles atteignent les OMD, car elles présentent d'importantes disparités entre elles. Enfin, le gouverneur intérimaire Sébastien Impeto, avant la clôture de la séance, en a appelé à la responsabilité de tous, gouvernants, forces vives et médias, pour renverser la tendance. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le Programme alimentaire mondial PAM a effectué une étude sur l'insécurité alimentaire en RDC. L'étude s'intitule « Analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité et ses résultats ». Nous revenons sur cet entretien que nous a accordé un expert du bureau du PAM RDC, M. Pembelero. C'était avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Pembelero, bonjour.
Bonjour.
Le PAM a procédé à une analyse approfondie de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. Quelle a été d'abord la motivation de cette analyse ?
Vous savez que nous travaillons dans un contexte de ressources limitées et dans ce sens, il est toujours plus efficient d'avoir des informations actualisées et fiables sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir cibler les zones d'insécurité alimentaire et les populations qui sont les plus affectées par ce problème. C'est pas seulement dans le domaine de sécurité alimentaire, mais le besoin d'avoir des données fiables sur lesquelles on peut s'appuyer pour une bonne gouvernance sont un besoin qui est ressenti dans tous les autres domaines.
C'est pourquoi cette analyse est qualifiée d'approfondie.
Elle est approfondie parce que elle a couvert tout le pays et elle explore un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de répondre à des questions clés qu'on se pose toujours. Les questions de savoir quelle est la prévalence de l'insécurité alimentaire en RDC, qui sont affectés par ce problème, ils sont combien, ils sont où, quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire et quelles sont les options des réponses pour les assister.
Alors par rapport à ces indicateurs, comment avez-vous analysé la sécurité alimentaire en RDC ?
La sécurité alimentaire est un concept multidimensionnel. Il y a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on se fonde pour pouvoir mesurer la sécurité alimentaire. Généralement, il faut dire qu'il y a trois dimensions de la sécurité alimentaire. Il y a la dimension de disponibilité, la dimension de l'accessibilité et la dimension de l'utilisation. La disponibilité veut dire quelles sont les quantités physiques de nourriture qui sont dans un pays en termes de production locale, en termes d'importation, mais aussi en termes d'aide alimentaire. Alors, l'accessibilité veut dire quelles sont les capacités de ménage d'accéder à cette nourriture qui peut être disponible. Et l'utilisation, c'est comment l'organisme arrive à utiliser cette nourriture qui rentre dans l'individu. Et là, on explore des aspects comme les habitudes alimentaires, l'accessibilité aux services sociaux de base, qui sont aussi des facteurs qui peuvent, si vous voulez, affecter cette capacité de l'organisme.
Oui, alors par rapport à tout ça, quel est l'état des lieux ?
Les premiers résultats, ce qu'on a trouvé, qu'en RDC, il y a environ 54% des ménages ruraux qui représentent environ 28 millions de personnes qui sont affectées par l'insécurité alimentaire, avec 7,5% d'entre eux qui sont sévèrement affectés par l'insécurité alimentaire. Sur le plan de répartition géographique de l'insécurité alimentaire, il y a un certain nombre de provinces où les proportions des ménages qui sont en insécurité alimentaire est au-dessus de la moyenne nationale. Donc ces provinces sont le Sud Kivu, le Kasaï oriental, la province de l'Équateur, la province orientale et le Katanga.
Alors d'après cette analyse, quels sont les facteurs qui favorisent l'insécurité alimentaire dans ces régions-là ?
Toutes les études montrent que l'insécurité alimentaire en RDC a des causes qui sont multiples et variées. Il y a des causes d'ordre structurel et des causes d'ordre conjoncturel. Les causes d'ordre structurel, c'est fondamentalement la pauvreté. C'est la pauvreté qui limite les ménages ruraux d'avoir accès à des outils de production. C'est la pauvreté aussi qui limite les capacités de ménage d'accéder à une nourriture adéquate qui peut être disponible sur les marchés. Et donc, la pauvreté elle-même, comme vous le savez, est un résultat de beaucoup de facteurs. Il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes, par exemple, des infrastructures qui sont quasi délabrées, surtout en ce qui concerne les routes de desserte agricole. Et ça empêche les ménages qui produisent dans le milieu rural de pouvoir écouler leurs produits sur des marchés. Mais ça peut être aussi un problème d'éducation. Le niveau d'instruction des personnes qui les limitent à avoir accès à l'information peuvent être une cause de pauvreté. Pour revenir aux causes conjoncturelles, il y a aussi les conflits armés qui sévissent surtout dans la partie est du pays et dans le centre du Katanga, qui en fait viennent exacerber une situation qui est déjà fragilisée par des causes structurelles.
L'analyse a couvert quelle période et quelle région géographique ?
La collecte des données a commencé en octobre 2011 et s'est étendue jusqu'en décembre 2012 et elle a couvert tout le pays, toutes les provinces, à l'exception de la province de Kinshasa. Mais il faut préciser aussi qu'elle a couvert seulement la zone rurale et non urbaine.
On a plus parlé de la sécurité alimentaire. Je ne vois pas jusque-là la part de la vulnérabilité parce que ce sont des concepts qui sont utilisés dans cette analyse.
En fait, la vulnérabilité l'a définie comme la capacité d'un ménage de pouvoir rebondir, si vous voulez, ou de pouvoir faire face à un choc auquel il est exposé. Et donc, les chocs ici, c'est quoi? On a des chocs comme les conflits armés. Alors, beaucoup de populations sont exposées à ces conflits armés. Lorsqu'il arrive que un village est attaqué et que ces personnes sont obligées de pouvoir fuir pour aller dans un endroit sécurisé, ces populations, est-ce qu'ils ont les capacités de pouvoir faire face à ce choc en termes d'avoir accès à la nourriture? On peut évaluer le degré de vulnérabilité. Par exemple, les enquêtes ont démontré que sur le plan de la situation des ménages, les ménages des déplacés sont plus vulnérables que les ménages résidents parce qu'ils ont moins de capacité de faire face au choc que les ménages qui les accueillent.
Monsieur PMB, l'un des objectifs de cette analyse était de guider le gouvernement, les organismes onusiens, dont le PAM, votre agence et autres organisations humanitaires, à élaborer des stratégies plus appropriées pour répondre aux besoins des personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Quelles sont les stratégies prises du côté du PAM par rapport à cet objectif?
Vous savez que le PAM a mis en place un programme qu'on appelle Programme d'intervention prolongée de secours et de redressement, IPCR. Ce programme vise à apporter une assistance alimentaire aux populations, surtout les populations qui sont affectées par les conflits armés, particulièrement dans l'est du pays et dans la partie centrale du Katanga. Il y a aussi une opération d'urgence qui a été mise en place dans la province de l'Équateur pour assister les réfugiés centrafricains. Il faut dire aussi que le PAM est en train de mettre en place, là où les conditions des marchés sont favorables, des modalités de distribution d'argent ou des coupons aux bénéficiaires de l'assistance alimentaire. Ça, c'est une modalité qui est importante parce que ça renforce, si vous voulez, l'économie locale. Et dans le domaine du développement, le PAM est en train de mettre en place aussi, avec la FAO, un programme qu'on appelle Achat pour le progrès. Et ce programme vise à renforcer les capacités des organisations paysannes dans certains endroits. On a commencé avec la province du Katanga, le territoire de Kabalo, et la province de l'Équateur, dans le territoire de Bikoro et de Ingende. Mais le programme va être élargi dans quelques mois dans la partie est du pays. Et ce programme, comme je le disais, vise à renforcer les capacités des organisations paysannes, à améliorer les marchés, à faire en sorte que les paysans vont être connectés au marché pour pouvoir écouler leurs produits. Et donc la FAO et Oxfam, par exemple, sont en train de renforcer les capacités de ces organisations en leur fournissant des intrants agricoles, mais aussi un appui technique. Et lorsque les surplus de ces organisations n'est pas écoulé, le PAM peut se présenter comme un acheteur de ces surplus.
Monsieur Pemelero, merci.
La journée mondiale de l'environnement est célébrée le 5 juin. C'était le cas le vendredi dernier. Une occasion de rappeler que les Nations Unies sont activement impliquées dans la problématique de la gestion des ressources naturelles et du développement durable de la RDC. Et parmi les réalisations enregistrées dans cette implication, citons le développement d'un atlas des énergies renouvelables en RDC. Un atlas qui identifie 786 sites hydroélectriques et plusieurs autres sources d'énergie renouvelable réparties sur l'ensemble du territoire congolais. Le potentiel économique du Nord Kivu mis en évidence au cours d'un forum à Goma au Nord Kivu qui s'est tenu du 3 au 6 juin 2015. Cette rencontre organisée par le gouvernement provincial avec un appui financier du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a réuni des acteurs du secteur public et privé de la province. Le tourisme, l'élevage, l'agriculture, la pêche, les ressources naturelles et minières, l'industrie et l'énergie ont été dégagés comme des secteurs porteurs et créateurs d'emplois de la province du Nord Kivu. Et le PNUD a profité de ce forum, le deuxième du genre, pour mettre en exergue l'équation entre la croissance et une paix durable. Enfin, 400 agents de la police nationale congolaise PNC du Nord Kivu, en formation depuis le 1er juin 2015. Ces éléments viennent de Goma, Masisi, Walikale et Rutshuru. Ils vont subir pendant 4 semaines une formation accélérée assurée par des formateurs de la PNC et du UNPOL, la police de la MONUSCO.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
promesse renouvelée pour la réduction de la mortalité infantile. Le gouvernement de la RDC et l'UNICEF étendent le programme de lutte contre la mortalité infantile et maternelle. L'objectif étant d'atteindre 54 décès pour 1000 naissances en 2017. Un défi à relever après des efforts réalisés de 2007 à 2014 qui ont permis de réduire le taux de mortalité infantile de 158% en 2007 à 104% en 2014. Des efforts encore insuffisants pour atteindre l'OMD 4 en 2015 sous la réduction de la mortalité infantile selon l'UNICEF. Le magazine des Nations Unies reçoit justement le représentant de cette agence onusienne en RDC pour évoquer ce défi en matière de santé maternelle et infantile. Pascal Villeneuve répond aux questions de Jean-Pierre et Lali Ikoko.
Pascal Villeneuve, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Le 31 mai dernier, c'était le deuxième anniversaire du mouvement mondial, une promesse renouvelée. D'abord, parlez-nous de ces mouvements mondiaux, une promesse renouvelée.
Oui, alors en fait, il faudrait d'abord préciser quelle était cette promesse qui a été renouvelée l'année dernière. Comme vous le savez, les objectifs de développement du millénaire, en quelque sorte, c'était une promesse qui avait été faite par la communauté internationale pour atteindre un certain nombre d'objectifs d'ici la fin 2015. Parmi ces promesses, il y en avait une qui visait à réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Et donc, en ce qui concerne un certain nombre de pays en voie de développement, l'UNICEF et d'autres partenaires ont constaté qu'il était fort probable que cette promesse ne serait pas atteinte d'ici la fin 2015, parce qu'il y avait des progrès, mais ces progrès étaient insuffisants pour atteindre l'objectif. Parmi ces pays se trouvait la RDC, et donc l'année dernière, l'engagement a été pris par le gouvernement de en fait renouveler cette promesse et de viser donc à réduire encore plus, 54 décès pour 1000 naissances vivantes. Ça, c'est l'objectif que le gouvernement s'est fixé d'atteindre d'ici la fin de 2017.
2 ans après le lancement de cette promesse renouvelée, est-ce qu'on peut faire maintenant le bilan en ce qui concerne la mortalité infantile et maternelle en République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment un échec ou bien il y a eu quelque chose qui a été fait?
Ah ben écoutez, c'est encore un peu tôt hein, pour dresser un bilan, puisqu'en fait, on se situe toujours dans la période couverte par les objectifs.
Mais il ne reste que 6 mois. Si vous voulez bien la fin de 2015.
Oui, tout à fait. Oui. Bon, on sait que d'ici la fin de l'année, la RDC très probablement ne sera pas en mesure d'atteindre l'objectif du millénaire. Pour que la RDC atteigne l'objectif du millénaire, il aurait fallu qu'on arrive à un taux de 67 décès pour 1000 naissances vivantes. Et pour donc l'année dernière, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé, le taux était de 104. Il faut noter néanmoins qu'il y a eu quand même un grand progrès comparé à 2007, donc en 7 ans, le taux de mortalité des enfants de moins de 7 ans a baissé de 30%. Donc, progrès qu'il faut en fait accélérer.
Oui, donc c'est un défi. Des initiatives ont été prises dans les contextes plutôt de la mise en œuvre du cadre d'accélération des OMD 4 et 5, comme vous l'avez dit. En quoi consiste alors ce programme et quelles sont les stratégies pour sa matérialisation?
Ben, en fait, il ne s'agit pas d'un programme à part, il s'agit en fait de la politique du ministère de la Santé publique.
Appuyée par l'UNICEF, entre autres.
Entre autres, il y a beaucoup d'autres partenaires également qui appuient cette politique qui vise vraiment à mettre au cœur de la réforme du système de santé l'amélioration des services de santé maternelle et infantile.
Monsieur Villeneuve, l'UNICEF et le gouvernement sont vraiment impliqués pour relever ces nouveaux défis avec 1 milliard de dollars américains. Quelle est la part de la contribution de l'UNICEF et comment est structurée cette participation en termes de chiffres, peut-être si vous avez des éléments?
En fait, techniquement, nous savons tous qu'il y a un certain nombre d'interventions dont l'efficacité est prouvée, qu'il faut mettre en œuvre sur une large échelle, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire. Ça va avoir un coût puisqu'il s'agit de disponibiliser les intrants, mais aussi de renforcer le système de santé pour accroître l'accès, l'utilisation, la disponibilité de ces différents intrants. Pour atteindre cet objectif, d'ici la fin 2007, il faut mobiliser au moins un peu plus d'1 milliard de dollars additionnels, qui fait qu'il faudrait faire passer, disons, la dépense publique de santé par habitant, qui est à l'heure actuelle de l'ordre de 2,7 $ par tête d'habitant, à 5,5 $ par tête d'habitant. Donc, ça reviendrait en gros hein, à doubler le budget de l'État consacré à la santé.
L'une des stratégies, c'était la vaccination des enfants pour essayer d'éradiquer ces problèmes de mortalité, mais pour les combattre. La mortalité infantile. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, non seulement de ces vaccins inactivés poliomyélite, et aussi de la politique de l'UNICEF, bien sûr, en ce qui concerne la vaccination pour lutter justement contre la mortalité infantile.
Oui, alors la vaccination, évidemment, reste l'arme la plus efficace et certainement la plus efficiente pour prévenir un certain nombre de maladies mortelles chez le jeune enfant et à travers des partenariats tels que l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, dont la RDC fait partie, l'UNICEF aussi, l'OMS et d'autres. L'objectif, c'est de continuer à la fois à accroître la couverture vaccinale, mais aussi à introduire de nouveaux vaccins qui sont maintenant disponibles à travers des financements globaux. Et parmi ces nouveaux vaccins, il y a celui que vous avez cité, le vaccin inactivé pour la poliomyélite, qui est un vaccin injectable et qui va permettre de consolider les gains de la RDC, puisqu'on sait qu'il n'y a plus de transmission de la poliomyélite en RDC. Mais il y a d'autres vaccins qui vont être introduits dans les années à venir, notamment le vaccin contre une forme de maladie diarrhéique, contre le rotavirus, et puis aussi un vaccin contre une forme de pneumonie.
Il y a aussi les moustiquaires imprégnés.
Les moustiquaires imprégnés, je pense qu'on ne le sait pas assez encore, ça reste quand même l'arme la plus efficace pour prévenir le paludisme. Les moustiques qui transmettent le palu sont surtout actifs la nuit, et donc si l'on dort sous une moustiquaire imprégnée, on est protégé, et le fait qu'elle soit imprégnée par un insecticide fait que les moustiques qui se posent sur la moustiquaire meurent. Donc on protège aussi la communauté. Là aussi, des progrès importants ont été accomplis par la RDC, puisqu'en 2007, 5% environ des enfants couchés sous une moustiquaire imprégnée. Ils étaient plus de 50% en 2014. Le défi, c'est évidemment de continuer à augmenter ce taux d'utilisation pour atteindre quasiment 100%.
Et vous dites qu'il faut atteindre 54 décès pour 1000 en 2017. Est-ce qu'on ne va pas connaître la même situation que voilà, on arrive en 2015, on n'a pas réalisé. Est-ce que vous êtes vraiment optimiste que cette fois-ci ça peut aller?
Ah, je suis optimiste. Je pense que la volonté politique s'est exprimée. Il faut maintenant mobiliser les moyens financiers et techniques pour assurer encore une fois que ces interventions, ces techniques qui ont prouvé leur efficacité soient mises en œuvre sur une large échelle. Ça ne va pas être facile. Si on a pu faire passer le taux de couverture en moustiquaire imprégné de 5 à 50% en 7 ans, je suis sûr qu'on peut continuer. Mais je voudrais souligner néanmoins une chose. Vous savez, le premier centre de santé, c'est la famille. C'est en faisant en sorte que les parents disposent de bonnes informations, qu'elles auront le bon réflexe, à la fois prévenir la maladie, mais aussi pour reconnaître les signes de gravité lorsque les enfants présentent une maladie, une diarrhée ou une pneumonie, et qu'elles amènent l'enfant au centre de santé le plus proche.
Pascal, je vous remercie.
Merci Jean-Pierre.
Début lundi dernier du transfert des réfugiés burundais d'Uvira vers les camps de Lusinda en territoire de Fizi. Une opération menée par les ACER au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés après la réunion de coordination tenue la semaine dernière entre les ACER et d'autres agences onusiennes à Bukavu. Fiston Ngoma nous en dit plus.
C'est dans un contexte de vulnérabilité que ce premier groupe de réfugiés burundais a été choisi pour commencer à faire mouvement vers le nouveau camp à Lusinda. Ils étaient 830 personnes logées depuis un mois ici au centre de transit de Kavivira, dont 333 sont convoyées ce matin par les camions du ACR. Leur joie est visible, ils l'expriment par des cantiques religieuses dans le véhicule. Pour le chef du bureau du ACR à Uvira, les conditions minimales sont réunies à Lusinda pour accueillir ces réfugiés. Le chef du bureau ACR Uvira Mante Kante.
On a fait les premiers pas déjà au niveau du camp. Et nous pouvons pour le moment recevoir plus de 600 personnes et parallèlement à ça, les constructions continuent. Une fois que les réfugiés arrivent, ils vont passer 3 jours au niveau du centre d'accueil pour approfondir le screening et tout ce qu'il y a. Après les 3 jours, directement, ils passent dans les abris individuels.
Un deuxième convoi est attendu à Lusinda par les camions du ACR. Le gouvernement congolais suit de près cette activité à travers la CNR, Commission nationale pour les réfugiés. Selon le son chef d'antenne à Uvira, Christophe Migale, le nombre de Burundais demandeurs d'asile décès enregistrés par le HCR s'élève à 9747 personnes à ce jour. Depuis le centre de transit du HCR à Kavimvira ou Vira, ils sont comme Mayabal à Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je vous invite à suivre cette question posée mercredi dernier à partir de la ville de Kisangani par un confrère ainsi que la réponse y réservée par le commandant de la force de la MONUSCO à partir de Kinshasa au quartier général. La question portée sur le drone.
Résorme Kango de la radio-télévision Kintoadi et journal Mongongo. Je me demande où est passé le drone à l'est de la RDC. Pourquoi la MONUSCO au massacre de Beria et tout contre le Elera.
En ce moment, la base des drones est à Bounia. Parce que pour l'opération d'ADF au niveau de Beni, c'est possible l'opération de Bounia. Et parce que c'est approprié la structure d'aéroport de Bounia pour l'opération de drones. Aussi, à Bounia, c'est important en ce moment parce qu'il y a le problème de FRPI et pour la monitoration de FRPI, c'est bon la présence de drones. Alors, les opérations de drones en ce moment sont centralisées au niveau de Bounia pour la couverture du FRPI et ADF.
Magazine des Nations Unies, portrait d'Isi.
Bonjour, je m'appelle Sylvie Sona Nzanza, c'est mon post-nom. Marie est mère de 3 enfants, j'ai un bébé de 9 mois, que j'allaite d'ailleurs, parce que pour moi l'allaitement maternel est très important. Ça permet de rendre fort mon enfant. J'aurai 40 ans cette année, mon école primaire je l'ai faite en une partie en Belgique, une partie ici en RDC, au groupe scolaire du Mouamba, mes études secondaires également. Et mes études universitaires, je les ai faites à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFACIC, que vous connaissez sûrement. J'ai également une spécialisation en droit de l'homme à l'Université Henri Dunant en Suisse, sur le droit économique, socio-culturel. J'ai également un diplôme d'études approfondies à la chaire UNESCO ici à l'Université de Kinshasa en droit de l'homme. Mon parcours professionnel, je suis journaliste, comme vous l'avez compris, de formation. Pour le moment, je travaille à l'UNICEF en tant que spécialiste à la communication. Mon travail consiste à gérer un peu les relations avec la presse, tout ce qui est comités nationaux. Vous savez, l'UNICEF travaille avec des comités nationaux de certains pays qui soutiennent l'action de l'UNICEF. Mon travail consiste à avoir une étroite collaboration avec eux et aussi avec différents bailleurs. Quand j'arrive le matin, j'ai un agenda où j'écris toutes mes tâches la veille. Et je regarde mon agenda, je regarde ce que je dois faire pour éviter d'oublier, d'accomplir certaines tâches. En ce qui concerne mon parcours professionnel, pendant d'ailleurs que j'étudiais, j'ai commencé à travailler dans un magazine qui s'appelait Écho de la Femme. À Kinshasa, mais le magazine n'existe plus. Hein. Après Écho de la Femme, j'ai travaillé à Antenna, la chaîne de télévision Antenna. Après Antenna, j'ai rejoint l'équipe de Radio Okapi. Donc je suis une ancienne de Radio Okapi. De 2003 à 2005, j'ai travaillé au sein du journal Parlé. Ensuite, le magazine Okapi Action. Donc après Radio Okapi, j'ai rejoint le Fonds des Nations Unies pour la Population. J'ai passé 3 ans. Après le Fonds des Nations Unies pour la Population, donc UNFPA, j'ai rejoint l'UNICEF depuis 2007. Mais j'étais basée cette fois-là à Lubumbashi. 7 ans après, je reviens à Kinshasa, donc j'occupe le poste de spécialiste à la communication ici au niveau de Kinshasa. Donc ça fait 2 semaines que je suis rentrée à Kinshasa. Bon, ce que j'aime faire, j'aime beaucoup marcher. J'aime beaucoup marcher, j'essaye de faire un effort. Si pas tous les jours, chaque semaine, je fais de la marche. Et puis, j'aime aussi sauter à la corde. Oui, bon, tu sais, hein, on essaye toujours, même si c'est pas la grande forme, mais on essaye. J'aime beaucoup les makayabu. En bonne Congo, j'aime beaucoup le makayabu. Dans le poisson salé, j'aime beaucoup ça. Sur le plan musical, j'aime la bonne musique. J'ai pas de préférence particulière, mais j'aime la bonne musique. Congolaise, j'aime beaucoup la musique chrétienne. Moloto, oui, j'aime beaucoup les chansons de Moloto. J'aime les 60s, les 70s, les chansons françaises, ça j'en raffole. J'aime beaucoup ces chansons, les vieux tubes là, ça j'aime beaucoup. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, bon, je compte continuer à travailler au sein des Nations Unies, à servir mon pays à travers les Nations Unies, à travailler pour la cause des enfants et des femmes. Pourquoi pas servir l'UNICEF mais dans un autre pays. C'est un peu ça. Je vous remercie.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Pour votre agenda, notez que le PNUD organisera le 10 juin, ce mercredi prochain, une séance d'information sur le projet collecte des données sur la consolidation de la paix et la reconstruction en République démocratique du Congo, et cela à l'intention des partenaires au développement en RDC. Par ailleurs, au moins 3 journées mondiales seront célébrées pendant la semaine. Le 8 juin, la journée mondiale de l'océan, le 12 juin, la journée mondiale contre le travail des enfants, le 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang. Voilà qui met un terme à ce magazine des Nations Unies. Bon dimanche à tous et à la prochaine.